Jean Mercard, bonjour.
Bonjour.
Quelles conséquences vous attendiez à l'époque de cette enquête?
Notre intention, elle était assez simple. C'est que quand on parle de la corruption dans le monde, on pense tout de suite aux pays d'Asie, aux pays d'Afrique, aux pays d'Amérique latine, comme si c'était les pays les plus corrompus du monde. Jamais la corruption dans ces pays ne serait possible avec une telle ampleur sans, d'une part, les rouages centraux, de l'opacité que sont les paradis fiscaux et puis les banquiers, les avocats qui font fonctionner, et d'autre part, la complicité, voire la lâcheté des pays riches, comme la France, qui officiellement s'indigne de la corruption au plan international, mais qui en réalité accueille à bras ouverts le fruit de cette corruption.
Et quelles sont les méthodes utilisées par ces dirigeants mis en cause pour pouvoir détourner de l'argent?
Il y a une méthode très simple qui est de piocher directement dans la caisse de l'État. Une autre méthode, c'est que chaque société qui voulait investir au Gabon en particulier devait ouvrir son capital à une société qui appartenait au Bongo. Une autre méthode encore, c'est que on s'octroie le monopole de l'exploitation d'une ressource. Par exemple, en Guinée équatoriale, Teodorino Obiang-Nguema avait donné le monopole de l'exploitation du bois, donc des forêts, à une société, Somaggi Forestal, donc qui était lui-même le propriétaire.
Est-ce que les personnes accusées, soupçonnées de détournement, ont fait évoluer leur technique pour dissimuler encore plus ce qu'elles faisaient?
Autant il y a 10-15 ans, on achetait des hôtels particuliers sans même se cacher. Il a suffi qu'on ouvre l'annuaire de Paris pour se rendre compte que la famille Bongo, la famille Sassou Nguesso, détenait un assez riche patrimoine. Alors avec le temps, ça s'est un peu complexifié. Par exemple, la famille Bongo détient une propriété qu'ils ont acquise via une société civile immobilière qui, elle, est située au Luxembourg. Une autre façon, c'est Teodorino Obiang qui, lui, détenait un grand immeuble de 6500 mètres carrés avenue Foch via différentes holdings en Suisse. Et ces holdings étaient elles-mêmes détenues officiellement par des hommes de paille. Et il a fallu, disons, toute la perspicacité et la ténacité pour mettre à jour la véritable identité du détenteur de ces sociétés écrans, qui était le fils Obiang. Tout le travail des magistrats, des juges français depuis ces dernières années, il a été d'abord de documenter quelle était l'ampleur du patrimoine de ces familles. Et effectivement, tout le travail des magistrats a été de demander la coopération de leurs collègues en Suisse, à Hong Kong, pour avoir vérification de qui détient ce compte en banque, est-ce que c'est quelqu'un de la famille, si c'est un homme de paille, qui est-ce qu'il masque, ce qui prend énormément de temps, et c'est la raison pour laquelle en 2017 seulement, on arrive à un premier procès, 10 ans après la publication de notre rapport.
Qu'est-ce qui a permis qu'en fait les procédures s'accélèrent au final et qu'on aboutisse à ce procès?
Alors jusqu'à 2010 en France, le seul acteur qui était légitime pour lutter contre la corruption, c'était l'État. Les autres, les associations, les citoyens, pouvaient observer, dénoncer, mais ne pouvait pas se porter partie civile devant la justice. Il a fallu ce courage, cette ténacité pour que, en 2010, dans un arrêt un peu historique, un juge d'instruction soit finalement nommé et qu'une enquête indépendante s'ouvre. Dans l'arsenal des mesures que peuvent prendre les juges, il y a la saisie des avoirs. C'est dans cet arsenal-là qu'ont puisé les magistrats pour saisir un nombre de voitures de luxe du fils Obiang Nguema. Ce que fait la justice française, c'est qu'elle vend aux enchères ces automobiles de luxe et cet argent est placé sous séquestre jusqu'au jour du procès. Si la justice dit que le prévenu est finalement innocenté, à ce moment-là, on lui restituera à lui les sommes de la vente aux enchères. S'il est coupable, cet argent, alors ça, c'est un grand point de discussion. On ne sait pas aujourd'hui ce qui en sera fait. C'est-à-dire, pour l'instant, il est dans les caisses du Trésor public français. Cet argent détourné sur le dos du peuple équato-guinéen, on ne comprendrait pas que ce soit les contribuables français qui s'en enrichissent.
Voilà, il faudrait le restituer au pays d'origine, sauf que il y a à la tête de beaucoup d'États mis en cause ces familles qui sont également soupçonnées de détournement.
On peut imaginer le placement dans un compte séquestre le jour où le gouvernement de Guinée équatoriale donnera suffisamment de garanties en matière de transparence dans la gestion du budget du pays. On pourra le restituer. Ou bien une restitution non pas au gouvernement, mais à un pool d'ONG locales, d'institutions internationales chargées de veiller à ce que cet argent bénéficie bien à la population et non pas aux familles dirigeantes. La France s'est engagée en 2005 à restituer l'argent détourné. Depuis, la France n'a pas bougé le petit doigt. C'est-à-dire qu'il a fallu que des associations saisissent la justice pour qu'il se passe quelque chose. Le gouvernement français, lui, n'a jamais voulu empêcher ni même dénoncer l'enrichissement des familles au pouvoir. Sur place, les populations qui ne voient pas le début du premier euro qui est détourné, ça se traduit par des familles qui crèvent parce qu'il n'y a pas de soins de base dans les hôpitaux. Quelque part, le gouvernement français, quand il continue à saluer les dirigeants de ces pays-là, il insulte leur mémoire.
un grand responsable étranger condamné, ça vous semble un scénario plausible un jour ?
Qu'il y ait une condamnation de Teodorino Obiang-Nguema est extrêmement plausible. Ensuite, est-ce qu'il va purger sa peine ? Ça, c'est une autre question. Une demande d'extradition auprès de la Guinée équatoriale, c'est un malin plaisir à ne pas y répondre. Maintenant, est-ce que ça empêchera Teodorino Obiang de se balader un peu partout dans le monde au risque d'être arrêté par un pays qui voudrait coopérer avec la justice française? Ça, c'est possible. Et que ces pays, ensuite, extradent vers la justice française pour purger sa peine.
Jean Mercard, merci beaucoup.